Merci aux gens qui ont participé à la première section et la deuxième section de notre émission. Est-ce qu'on a la pilule trop facile? Parce qu'actuellement, on sait qu'il y a eu une augmentation faramineuse en 2020 chez les jeunes de moins de 17 ans. 20 % de plus d'administration d'antidépresseurs et de médicaments psychotropes qu'on appelle. Chez les personnes âgées, 12 %. Donc, on fait du Québec une province où on consomme beaucoup de médicaments, que ce soit des antidépresseurs, des psychostimulants ou des anxiolytiques. Mais aussi, parce que les gens, il y en a qui ont peur de la COVID, il y en a qui ont peur des vaccins, il y en a qui ont peur des effets secondaires des vaccins. Et juste en passant, oui, aux nouvelles, on nous dit qu'il y a une dame qui est décédée, mais il faut savoir qu'il y a eu pas mal plus de décès de la maladie et que le facteur thrombose, il est 2,5 à 10 fois plus avec la maladie qu'avec le vaccin. Donc, attention, il faut relativiser. Est-ce que vous pouvez avoir une indigestion en mangeant de la crème glacée? Oui. Est-ce que c'est fréquent? Non. Est-ce qu'on peut prédire quand vous allez avoir une indigestion de crème glacée? Non plus. Donc, ça dépend si vous avez pris une poutine avant. Bon, puis ça dépend ce que vous avez mangé ou si vous êtes fragile, pas fragile, énervé, pas énervé. Mais on va revenir aussi au niveau de la pilule. Et Justine est en face de moi.
Oui, et d'ailleurs, je veux revenir sur les fameuses deux journées, les deux jours de congés payés. On me dit que c'est au fédéral que c'est offert et qu'on n'a pas besoin de montrer de preuves sur ces fameuses...
Deux absences non motivées, deux jours d'absence non motivées par année.
Oui, par exemple, pour des raisons familiales notamment. Donc, oui, est-ce qu'on a la pilule facile au Québec? T'en parlais, hausse fulgurante des prescriptions d'antidépresseurs en 2020, selon les données fournies par la Régie de l'assurance maladie du Québec. La prescription de ces antidépresseurs a augmenté de 7 % en 2020. C'est deux fois plus vite que pendant les 15 dernières années. Mais ce que dit aussi la RAMQ, c'est qu'on a de la difficulté à séparer les données actuellement.
Absolument.
Par rapport à la pandémie. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on sait que la présence d'un virus aussi contagieux que la COVID, c'est une source d'anxiété pour plusieurs personnes. Il y en a qui ont de la difficulté avec ça. La maladie mentale aussi peut mener à une invalidité, un arrêt de travail. Donc, ça peut pousser très, très loin. Est-ce qu'on a, disons, la pilule facile, par exemple, quand on arrive dans le bureau du médecin? C'est la question qu'on vous pose ce soir, 514-790-9850 pour cette deuxième heure.
Parce que plusieurs psychiatres nous disent que est-ce que c'est vraiment des troubles mentaux ou c'est une détresse sociale? Comment est posé le diagnostic? Parce que la différence d'intensité entre un trouble et l'état de détresse ou de tristesse ou de langueur ou de manque de motivation, c'est pas nécessairement une dépression. Par contre, la bonne nouvelle pour M. Benoît Morin, c'est qu'on prescrit plus d'antidépresseurs, ce qui est le médicament favorisé pour le traitement de l'anxiété importante, beaucoup plus que les attivants de ce monde ou les Cérax ou les Valium qu'on donnait autrefois, ou même de détourner le Xanax chez les jeunes pour traiter l'anxiété. Combien il y a eu de cas de dérive de l'utilisation de la médication? Alors, tout ça va nous poser plusieurs questions auxquelles on va essayer de répondre avec Mme Madeleine. Sommes-nous trop vite sur la pilule? Bonsoir, Mme Madeleine.
Bonsoir, ça me fait plaisir de vous parler.
Écoutez,
j'ai une question particulière. Est-ce que c'est normal qu'un médecin refuse de renouveler un médicament pour la douleur sous prétexte qu'on peut devenir dépendant et qu'on nous propose par la même occasion de prendre des Tylenol? Alors que là, j'ai un médicament pour la douleur que je prends à l'occasion. Et puis là, on me dit que de prendre le Tylenol, mais là, ça en prend 4 à 6. Si j'y ai dépendant, de toute façon, peu importe que je prenne le médicament
d'abord,
ou 4.
Oui? Je ne veux pas vous interrompre, mais d'abord...
Non, allez-y.
D'abord, le médecin doit vous poser la question à savoir quel genre de douleur vous avez. Je ne veux pas le savoir, là, je ne rentre pas dans votre dossier.
Non,
quel genre de douleur vous avez? Est-ce que c'est des douleurs piquantes, des douleurs la nuit, des douleurs le jour? Qu'est-ce qui vous soulage? Est-ce que, par exemple, le jour, c'est moins pire que la nuit? Est-ce que le froid vous soulage? Le chaud vous soulage? On commence par des choses simples. Si vous prenez du Tylenol, est-ce que ça vous soulage? Est-ce qu'on peut donner plus de Tylenol? Est-ce que vous le tolérez bien? Le Tylenol, en général, n'est pas un médicament à accoutumance. Ce qui est à accoutumance, ce sont les opiacés, les morphines, les dilodides, tout ça de ce monde. Et on essaie de pas frapper avec un canon une mouche. On va prendre la tapette à mouche. Donc, on va commencer et on va grader la médication en fonction des effets qu'on recherche, des effets de temps, combien de temps on veut que ça dure, et l'intensité de la douleur pour la soulager. Donc, on établit un programme de gestion des douleurs. Puis à ce moment-là, là, on peut renouveler la médication pour un temps limité. Mais si on prescrit des opioïdes, il faut assurer un suivi et il faut que le patient décide lui aussi de nous donner quel est l'effet de ce médicament-là, à quelle fréquence et comment il réagit. Donc, ça demande de revoir le médecin. Je vous dirais, quand on commence un traitement sérieux de clinique de douleur, c'est certainement aux 3 semaines qu'on se voit au début. Alors, merci beaucoup, Mme Madeleine. Monsieur Claude, bonsoir.
Doc Laveur, je vous honore.
Ah, merci, vous êtes donc bien fin. Mais on est une équipe, là.
Non, mais maudit, ben, tout le monde, en tout cas, mais c'est vous qui êtes en tête, là. Ça fait longtemps que je vous écoute à 98.5, puis c'est pas pour le lien qui vous interviewe, pas l'arcane ici qui parle Isabelle Maréchal et compagnie. Merci. Donc, ça, si tout le monde, si tous les médecins faisaient ce que vous venez de dire, là, s'il y avait le temps de faire ça, ça irait bien. Parce que moi, le propos que je veux vous apporter, ça fait 50 ans que je suis un professionnel d'activité physique.
Ouais.
Ça fait 40 ans que je me bats pour que les cours d'éducation physique soient augmentés dans les écoles.
Ouais.
Ça fait autant de temps que je dis aux médecins, puis le docteur Béliveau l'a dit, le plus gros fléau qui existe dans la province de Québec actuellement, c'est l'obésité. Mais pourquoi que jamais, Doc Laberge, dans 50 ans de profession, je n'ai jamais eu une prescription qui disait « Allez rencontrer les professionnels de l'activité physique, puis faites-vous tracer un programme, vous avez besoin d'entraînement. »
Il y en a eu. Il y en a eu des prescriptions parce que ouais, c'est ça. On avait reçu comme omnipraticien des prescriptions autant pour le musée que des prescriptions pour l'activité physique et on pouvait mettre le nom du patient, on pouvait mettre la date comme une prescription ordinaire, puis on prescrivait par bloc de 15 minutes et c'était avec le sportif qui fait Pierre Lavoie. Et c'était avec l'activité Pierre Lavoie, mais c'était pour encourager les gens à faire de l'activité physique. Et on leur donnait cette prescription-là en même temps que la prescription de médication ou autre, ou de prise de sang. Alors oui, on a fait ça, sauf que je vous dirais que ça s'est éteint parce que d'une part, encore faut-il que les patients le respectent et c'est pas toujours le cas. La pilule est plus facile à prendre par la bouche que par les pieds, hein, pour aller marcher dehors.
Que de se faire aller les pattes, oui.
Oui, c'est ça.
Mais je n'ai jamais vu, moi, madame.
Ah, vous n'avez pas eu l'occasion de voir ça. Désolée. Mais peut-être aussi que les gens l'avaient puis ils l'ont gardé dans leur poche, ils ne l'ont pas montré à personne. Mais oui, on avait. Puis écoutez, c'était des affaires, là, un bloc de prescription, c'était des feuilles carrées. Puis ça mesurait au moins un 3 pouces et demi d'épais, là, ces petites feuilles-là. Là. Ça fait qu'on en avait en masse. Fait que désolée que vous ne l'ayez pas vu, mais on essaie d'encourager, comme à chaque année, les médecins font des marches avec leurs patients. Il y a une journée.
De votre part, j'en doute pas, Dr. Laberge. Puis je vous crois quand vous le dites absolument, parce que vous êtes GBS.
Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison que si tout le monde faisait un peu d'activité physique, c'est très bon pour le moral. Merci beaucoup, M. Claude. Bonne soirée. Donc, on se rappelle que la question, est-ce qu'on est trop vite sur la gâchette? Est-ce qu'on est trop pilule magique au Québec? Alors, j'aimerais avoir votre opinion. 1-866-790-9850, le 514-790-9850 ou le texto 98985. On vous attend. Rebienvenue parmi nous. Ce soir, on se pose la question dans cette deuxième heure, est-ce qu'on a la pilule facile au Québec avec l'augmentation de 12 % chez les personnes âgées et de 7 % chez les jeunes de moins de 17 ans, ce qui est assez faramineux. Est-ce qu'on a d'autres moyens d'évaluer, de nommer le malaise? Parce que je pense que l'anxiété, oui, mais le stress, oui, puis les gens confondent les deux souvent.
Oui, et beaucoup de gens, Christiane, font référence aux assurances, notamment les assurances privées, parce qu'il y a certains experts, par exemple, psychologues, notamment, travailleurs sociaux, tout ça, c'est pas toujours payé. Mm-hmm. Et quand même, tu seras en mesure de nous le dire,
c'est
sur du moyen long terme.
Non, c'est 6 séances totales. Merci, ça. Bonsoir, ou c'est 500 $ total, merci.
Alors, des fois, ça peut être un frein.
Absolument.
Tu parlais, bon, on parle surtout d'antidépresseurs, mais on a Sylvain qui nous a écrit pour nous parler des enfants du Ritalin. Lui, il trouve ça épouvantable. Il trouve que de la surmédicamentation des enfants qui ont reçu un diagnostic de TDAH. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé que il y a quoi, peut-être 2 ans, il y avait des médecins qui étaient sortis justement dans les médias pour dénoncer le recours trop facile aux médicaments pour traiter des symptômes qui s'apparentaient à des troubles du déficit de l'attention.
Maintenant, tu vois des antidépresseurs.
Chez les jeunes, oui, c'est ça. Donc, on vous pose cette question-là. Est-ce qu'on a la pilule facile au Québec? On a Éric qui nous dit oui, et les gens veulent toujours avoir la solution facile pour régler un problème au lieu de se donner l'effort pour régler ce même problème. C'est mettre une patch sur le bobo.
On appelle ça mettre un plaster sur une jambe de bois. Mettre un diachylon sur une jambe de bois. Ouais. C'est pas très efficace.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On veut entendre ce que vous avez à nous dire. Est-ce qu'on a la pilule facile au Québec? 514-790-9850.
Et on va parler à Mme Josiane. Bonsoir, Mme Josiane.
Bonsoir.
Qu'en pensez-vous?
Eh bien, ça dépend des gens.
Oui?
Ça dépend des circonstances.
Mm-hmm. Racontez-nous ça. Qu'est-ce que vous nous dites, là, les circonstances et les gens? OK. Monsieur Alexandre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, qu'en pensez-vous? Pilule facile?
Oui, pilule facile.
Okay.
Moi, je dirais que quand je vais dans le bureau du médecin, on me propose souvent la pilule du médicament en premier. J'ai plutôt la tendance à la refuser. J'aimerais mieux me retourner vers peut-être la solution moins facile pour moi, l'exercice ou une prise en charge différente. Mm-hmm. Mais j'entrais aussi, comme exemple, au travail, une certaine jalousie, une certaine envie entre certains collègues de travail qui ont, tout d'un coup, eu une augmentation de concentration qui était un peu extraordinaire. J'ai vu un changement radical dans leur performance au travail.
Du jour au lendemain, là.
Du jour au lendemain, okay. Suite à une prise d'indication, puis ils se sont pas cachés. Ils l'ont dit. Puis, mais ça fait changer, ça augmente une espèce de jalon d'attente de performance, autant envers l'employeur, par rapport à l'école, avec les enfants. On va modifier la métrique pour comparer les étudiants entre eux autres, pour savoir si c'était performant ou non, parce qu'on commence à avoir de plus en plus une grande quantité de population qui commence à être médicamentée pour aller chercher une performance supérieure.
OK, fait que vous parlez surtout des psychostimulants qui, selon vous, sont donnés un peu trop facilement. Mais vous savez que chez quelqu'un qui n'en a pas besoin, ce que ça fait, c'est l'effet de prendre 10 cafés. Le cœur vous débat, la pression monte. Vous êtes plus alerte, mais vous n'êtes pas plus performant. Et ça, on a prouvé ça. Les gens se garochent un peu partout. Ils sont stimulés partout, mais ils ne sont pas plus concentrés sur la tâche quand ils n'ont pas besoin de la médication. Quand tu as un vrai TDAH et que tu prends un psychostimulant, à ce moment-là, oui, ça va diminuer l'impulsivité, ça va diminuer l'hyperactivité et ça va augmenter l'attention. Mais ça n'augmente pas le QI, ça n'augmente pas... Comme je dis souvent aux enfants, c'est pas parce que tu as une paire de lunettes que ça va t'apprendre à lire. Il faut que tu pratiques ta lecture pour apprendre à lire. Donc, c'est vraiment juste une paire de lunettes. Donc, les gens qui l'utilisent à mauvais escient... Je dois vous dire que les gens aussi consomment énormément de boissons énergisantes qui contiennent des dérivés caféinés ou de la caféine carrément, de telle sorte que les gens sont surstimulés, mais pas plus performant quand même. Mais merci beaucoup de votre témoignage. Ces gens-là, la performance va s'épuiser rapidement. Alors, merci, puis j'espère qu'on va se reparler, Alexandre. Madame Josiane, vous êtes revenue. Vous avez pesé sur le mauvais piton.
Oui.
Je vous écoute.
Oui, OK. Bien, il y a beaucoup de gens qui eux, ils ont besoin, dans le fond, du médicament, dans le fond, de la pilule, mais
ouais.
ils ont zéro ressource, genre, pour l'obtenir ou zéro résultat médical de leur jeunesse pour obtenir à avoir ce médicament pour avancer dans la vie. Tu sais, vous dites que les gens, ouais, ils ont la pilule facile, mais il y en a d'autres qui veulent l'avoir pour être capables d'avancer, mais les barrières sont toutes fermées parce que ils veulent rien savoir. C'est pas ce que je veux dire?
Pas du tout. Les barrières sont fermées de leur part ou de la part du système?
mais de la part du système. Tu sais, les gens qui arrivent et qui disent qu'ils ont un TDAH qui a été diagnostiqué depuis leur jeune enfance.
Oui, OK.
Qui arrivent chez un médecin, qui n'ont pas de médecin de famille,
ah oui, okay.
qui sont okay. À la clinique. Mais c'est pas quelqu'un qui veut prendre la pilule facile. C'est non. quelqu'un qui en a besoin pour ouais. avancer dans la vie, mais que ouais. les barrières ils restent toutes fermées.
Oui. Je suis d'accord avec vous, effectivement. C'est que ça prend pour avoir un diagnostic de TDAH. Il faut que tu répondes au moins à 3 questionnaires, puis plusieurs ont plus que 30 questions. Fait qu'il faut que okay, le patient bien. Télécharge le questionnaire, remplisse le questionnaire, ait une relation avec le médecin, parce qu'on dit tout le temps, quand on prescrit des psychostimulants, on sauve pas une vie, là. C'est pas de la nitroglycérine à un infarctus. Mais il faut qu'il y ait une relation qui s'établisse et qu'on ait un okay. suivi.
Est-ce que si je te dis, on va dire que moi, je suis âgée entre 25 et 30 ans, puis je te dis que j'ai un diagnostic de TDAH depuis jeune,
ouais.
Qui voudrait reprendre la médication pour avancer dans la vie, tu me dis d'aller vers où?
Je vous dis d'aller sur le site Attention Déficit Trait d'Union Info ou sur la Fondation Philippe Laprise. Regardez mmh. Portfolio Évaluation Adulte et vous allez avoir 3-4 questionnaires à remplir où on va essayer de voir l'ensemble. On va essayer, vu que vous êtes une adulte.
Je peux pas juste aller chercher.
Hein?
Enfin, je peux pas juste, mettons, aller chercher mon dossier à la clinique ou laisser où est-ce que le médecin de famille à jeune enfant si j'étais.
Vous pouvez toujours, mais vous allez avoir besoin d'une réévaluation comme adulte parce que souvent, comme adulte, on va multiplier les problèmes. On peut prendre un rendez-vous si vous avez au CLSC en santé jeunesse. Mais vous pouvez prendre un rendez-vous. Théoriquement, vous êtes sur le guichet d'accès pour avoir un médecin de famille, de toute façon?
Je suis en attente. Okay. Mais c'est Christiane Labelle, toi?
Mais non, parce que Dr Laberge n'est pas en attente. Non, 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 non.
C'est ah, Josiane.
Oui, mais vous n'avez pas... non, vous avez à vous trouver un médecin de famille puis essayer d'avoir... oui, on peut faire les résumés de dossier, mais vous avez aussi des tests à faire comme adulte parce qu'il y a des comorbidités et il faut réévaluer. Alors, on va sur la Fondation Philippe Laprise chercher les documents. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Et vous savez que la question ce soir, c'est est-ce que vous trouvez qu'on a la pilule trop facile avec l'augmentation des antidépresseurs et des prescriptions de tout genre? Ce soir, donc, c'est le 514-790-9850, le 1-866-790-9850 ou le texto 98985. Et on va parler à M. Pierre-Alexandre. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous, qu'en pensez-vous?
Alors, ben, en fait, moi, je voulais vous parler au niveau de, vous avez mentionné tantôt, vous avez parlé des dépendances.
Oui.
Suite à une thérapie, moi, pour la drogue, quand j'ai été voir un médecin par la suite, parce que j'avais de la difficulté à dormir, ils m'ont prescrit du Seroquel par rapport à ce que ils m'ont dit que ce n'était pas addictif. Ben, je suis persuadé que c'est pas vrai. Dans le sens où c'est peut-être mental, mais je le sais que j'en ai besoin pour dormir.
Mm-hmm.
Je comprends le pourquoi qu'ils peuvent pas prescrire à une personne qui consommait de la drogue antérieurement quelque chose d'autre pour qui peut rester accroché. Je comprends.
Ouais.
Donc, le Seroquel était
mais
qui
en fait,
faisait de mieux pour eux, mais moi, je vous dis que si j'ai pas de Seroquel pour dormir, la tête me tourne et puis... En tout cas, je suis pas sûr que c'est pas addictif. Comme
en fait, théoriquement, ce n'est pas addictif. Ce qui est addictif, c'est l'idée de le prendre. Ça, c'est de un. De deux, il peut y avoir une question de dosage à diminuer, mais il faut aussi avoir d'autres stratégies pour évaluer le sommeil, quelle sorte de sommeil, quels sont les problèmes du sommeil, comment on peut arriver à bout de ce sommeil-là pour qu'il soit fonctionnel. On a toujours la notion qu'il faut qu'on dorme d'un bout à l'autre. Par exemple, on se couche à 9 heures, ben on se réveille à 5 heures, puis on ne devrait pas se réveiller pendant la nuit. Ben non, c'est pas comme ça. En général, il y a énormément de gens qui vont avoir des petites pauses sommeil, c'est-à-dire des éveils de 5 minutes au moment où le sommeil devient très superficiel. On a des cycles de sommeil, on a des périodicités de sommeil et malheureusement, les gens qui partent avec l'idée « Hey, je dors pas, ça n'a pas de bon sens, je suis à la corde à linge, je vais avoir l'air du diable demain matin », à ce moment-là, c'est un traitement qu'on va appeler cognitivo-comportementale qui va devoir s'additionner. Il y a des cliniques spéciales aussi d'évaluation du sommeil si vous avez vraiment un problème d'insomnie. Et à ce moment-là, il y a vraiment des bons trucs. Il y a des bons livres québécois qui ont été faits là-dessus. Charles Morin, Diane Boivin. Alors, vous pouvez référer à ça. Bonsoir, j'en monsieur.
Oui? Puis, juste deux petites secondes pour faire référence à votre, auditrice précédente. Là. Oui. Honnêtement, je la comprends. Parce que... j'ai été voir un psychologue pour justement des problèmes de concentration, tout ça. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et puis il m'a exactement. Et lui, il m'a diagnostiqué tout de suite. Il m'a dit, écoute, c'est flamboyant. Toi, on n'a pas d'autres questionnaires à te faire. C'est ça. Va voir ton médecin. Mais quand le médecin il m'a rencontré, il m'a dit, ah non, moi, je peux pas prendre une évaluation d'un psychologue. Donc là, il voyait dans mon dossier, t'as déjà pris de la drogue, non, on peut pas te prescrire quoi que ce soit pour la concentration, ces choses-là, parce que, bon, X raison.
Je dois rajouter que c'est très intéressant ce que vous dites, sauf que les données à jour sont chez les toxicomanes, on a jusqu'à 33% de dépendance chez les TDAH. Et un des traitements des TDAH qui sont atteints de dépendance, c'est de les traiter avec un psychostimulant. Mais ça demande une évaluation médicale en même temps que le psychologue et d'ajuster votre médication de même que de la suivre. Alors oui, on donne des médicaments pour le TDAH dans la toxicomanie. Juste pour raffirmer. Merci beaucoup. Et on doit déjà aller en pause à nouveau. Alors, vous rappelez le 790-9850, le 514-790-9850. Et la question, avons-nous la pilule trop facile? Avec vous ce soir, on veut savoir, est-ce qu'on a la pilule facile au Québec? Parce qu'on a une augmentation de plus de 7% chez les jeunes de moins de 17 ans avec cette pandémie et les gens de plus âgés de 12%. Et ça, c'est en excluant les CHSLD, là. Mmh. Fait que ça veut dire que les gens ont eu beaucoup d'anxiété, des aspects dépressifs, des troubles d'adaptation. Mais est-ce que les diagnostics sont toujours correctement faits? Et est-ce que les médicaments sont donnés avec un suivi?
Oui, et je serais curieuse, Christiane, d'entendre les gens qui ont des prescriptions d'antidépresseurs, combien de temps ça leur a pris pour obliger de vous nommer. Là, vous pouvez vous inventer un nom si vous
combien
êtes trop gêné.
Combien de temps la consultation?
Oui, combien de temps la consultation? Je serais curieuse de l'entendre. 514-790-9850. On a quelqu'un qui nous écrit, André, qui dit non, on ne prescrit pas trop rapidement. Mon fils de 8 ans a été évalué, lui, par un psychologue. 2 700 $ plus tard, le diagnostic est tombé. TDA sans hyperactivité. La médication et les conseils ont donné une hausse de 25% dans son dernier bulletin. Donc, on l'associe à la performance, si on veut, de l'enfant. Il dit « J'adore » et « Il adore son bifantin ».
Ouais.
On a un autre auditeur
dès
qui dit…
Dès qu'il est suivi, globalement, pour toute l'adaptation de sa personne, c'est pas une drogue de performance. On la prend la fin de semaine pour apprendre à lire un roman, pour apprendre à faire des commissions, pour apprendre à planifier la recette de muffins qu'on va faire avec papa-maman. C'est ça le but.
On a quelqu'un qui nous écrit « J'ai eu recours au Ritalin Concerta vers la fin de mon primaire et au secondaire, mais seulement les jours d'école. »
Voilà, c'est
on
ça
a,
le problème.
Oui, la pilule facile, mais dans mon cas, c'était nécessaire. Je n'aurais jamais pu avoir mon DES, donc mon diplôme
absolument
d'études secondaires, sans ça. On a Philippe qui dit « Trop de pilules pour tout le monde. Je ne suis pas vieux, j'ai 26 ans. » Et on était loin d'avoir autant de cas de TDA et d'anxiété au secondaire. Les réseaux sociaux procurent beaucoup d'anxiété à nos jeunes et c'est trop facile pour eux d'avoir des pilules au lieu de réduire leur consommation sur Instagram, sur les réseaux
absolument
sociaux et tout ça.
Absolument.
Puis on a même quelqu'un qui parlait un peu comme Claude tantôt, qui dit, selon lui, les gens ne bougent pas assez, ne font pas assez de sport, pression de performance, rythme de vie qui font en sorte que les gens s'épuisent et ont recours à des pilules. Puis tu parlais justement, même selon la RAMQ, c'est vraiment l'année 2020 a été particulièrement difficile pour les 65 ans et plus qui ont reçu beaucoup de ces médicaments, de ces antidépressants depuis le début de la pandémie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'au Québec, on a la pilule facile, c'est facile de se faire prescrire de ces antidépresseurs, de ces médicaments? Appelez-nous 514-790-9850.
Oui. Tout à fait. Et on va commencer par l'opinion de M. Ranem. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Oui, je vous écoute.
Moi, je vais vous raconter une histoire. En étant petit, j'étais diagnostiqué autant que hyperactif.
Oui.
Et puis, bon, je vais dire que j'ai eu de la chance. Ma mère, elle fait partie du corps de l'enseignement. Mm-hmm. Et elle a su comment gérer la chose.
Okay.
De manière à ne pas passer par la médication.
Okay.
Et puis, ça a passé par le sport. Et certes, j'ai raté quelques années d'études, mm-hmm. mais ça n'a pas empêché que je termine mes études.
Ouais.
En ayant un diplôme d'architecte en tant qu'ingénieur.
Okay.
J'ai fini par savoir comment gérer cette hyperactivité.
Mm-hmm.
En faisant bon, beaucoup de sport, je faisais un transfert de manière à faire bouger mon pied d'une manière excessive, mm-hmm. juste pour évacuer tout ce stress-là. Mais là, en étant adulte, je me retrouve avec un enfant qui souffre de la même chose.
Bien sûr, c'est-à-dire génétique à 80%.
Ils n'arrivent plus à savoir si mon enfant il est hyperactif, mm-hmm. si il est autiste, ou s'il fait un retard de langage.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
On a fait plusieurs évaluations.
Oui.
Et à chaque fois, l'évaluation, c'est-à-dire le résultat de l'évaluation, il changeait.
Oui.
On se retrouve à faire notre troisième évaluation. Là, on est en train d'entamer notre troisième évaluation sans savoir à quoi on va... C'est-à-dire, on ne sait pas à quoi s'attendre, là.
OK, à quoi on s'adresse, effectivement. Il y a des cas complexes comme ça qui souvent vont être une motivation d'aller voir un pédopsychiatre pour essayer d'avoir l'ensemble. Mais en attendant, plutôt que de donner la médication, on va donner des services de psychoéducation, on va donner des services d'orthophonie, parce qu'on va aller continuer avec les autres professionnels dans l'équipe pour l'évaluation. Alors, oui, vous trouviez qu'avec vous, on avait la pilule trop facile, mais aujourd'hui, avec les enfants qui ont une complexité de problèmes de ce type-là, des fois, on commence par traiter le TDAH avec une médication, puis on regarde l'impact sur le reste des autres problèmes. Mais merci beaucoup, M.
Mais ce que je voulais dire, moi, je ne l'ai pas pris, la médication.
Non, je le sais, vous ne l'avez pas pris. Oui.
Oui, ma mère, elle l'a toujours refusé. Oui. Elle a su me gérer.
Oui.
Pour mon enfant, ici au Canada,
oui.
la première chose qu'on m'a proposée, c'est la médication.
Oui.
Ce que j'ai refusé.
Oui.
Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est-à-dire, on ne sait pas encore le vrai diagnostic de notre enfant.
Je suis d'accord avec vous dans le sens où ce n'est pas le premier traitement toujours, mais chez plusieurs enfants, c'est le premier traitement. Le deuxième... psychoéducation, ils sont pas mal égaux, mais il faut jumeler souvent les deux. Alors, si un enfant a de la difficulté à parler puis il y a de la misère à voir, ben on va quand même pas le priver de lunettes parce qu'il y a de la misère à parler. Donc, on va cumuler les deux traitements et on va regarder ce que ça donne. Mais, effectivement, vous avez le droit, mais il faut commencer quelque part. Bonsoir, M. Simon, professeur. Oui. Bonsoir.
Oui, bonjour.
Oui, je vous écoute.
Mais oui, c'est ça. Moi, je suis enseignant au primaire, 31 ans, donc je suis dans la fleur, je commence.
Oui.
Donc, j'en suis... Mais ça fait quand même 6 ans que j'enseigne.
C'est ça que j'allais dire, ça doit faire 5-6 ans, là, à votre âge.
J'ai toujours l'impression que les vieux, en guillemets, là, parce que j'adore mes collègues qui ont l'expérience, qui me partagent beaucoup, beaucoup de choses.
Oui.
Mais les collègues qui sont plus âgés ont beaucoup... la pilule facile, entre guillemets, du fait que c'est toujours une alternative facile à
mettre en place.
Je vais, je vais l'appeler Félix, là, parce que Félix, c'est tout le monde, mais c'est personne à
C'est comme Germaine, tu sais, quand on veut parler de quelqu'un qui est bosseuse.
Et voilà. Donc, Félix bouge, il gigote, nanana. Donc, ben on va recommander aux parents de. Mais non.
Non, non.
Tu sais, il y a peut-être une façon de faire dans la classe que moi.
Tout à fait.
L'âge que j'ai va faire en sorte que, ben oui, je suis prêt à expérimenter. Ça va me faire plaisir de tout faire pour cet enfant-là qui gigote plus. Moi, étant un homme au primaire qui est une denrée rare, je vais beaucoup, beaucoup m'identifier dans les jeunes garçons aussi là, qui a besoin de bouger et tout.
Mm-hmm.
Et souvent, quand on permet aux jeunes gars d'être debout, de bouger, de juste aller courir. C'est anodin, mais courir.
Aller porter la flèche à la direction,
Et voilà, exactement. C'est un geste qui va prendre 3 minutes.
Absolument.
Mais qui m'en fait gagner 25 après.
Absolument.
Donc, sauf que la... C'est ça. Des fois, l'ouverture, et je le déplore chez mes collègues, ben je vais dire plus vieux là, mais c'est vraiment pas, c'est pas généralisé là, T'sais, c'est pas nécessairement tous les vieux profs qui pensent ça non plus. Mais chez les collègues plus vieux,
c'est la
on
tendance.
Dirait que la pensée de dire « oui, je peux faire, j'ai le droit de mettre un pied à gauche de la ligne » est un peu plus...
Mais c'est pour ça qu'on veut avoir, entre autres, Dr. Annick Vincent, qui travaille aussi avec la Fondation Philippe Laprise. On essaie d'avoir, plutôt que d'avoir des plans d'intervention individualisés pour chacun des enfants, d'avoir des plans globaux d'enfants. Quel petit gars qui n'a pas besoin de bouger, puis quelle petite fille qui n'a pas besoin de picosser et de parler. Donc,
on a instauré dans notre école l'année dernière, avant la pandémie, donc il y a deux ans, si on veut, des corridors actifs.
Oui.
Là. C'est de la marelle dans le corridor.
Absolument.
C'est exactement ça. Si vous saviez ce que ça fait, et c'est, je vais dire un petit gars, mais il y a des petites filles que ça marche autant, là. C'est juste qu'on souvent, le TDAH, on va le sexualiser, on va le genriser au gars, mais hey, va faire un petit corridor actif.
Absolument.
Et ça prend 5 minutes. L'enfant, là, il faut lui avoir montré. Là, il y a un enseignement à faire sur le corridor actif.
Oui.
Il faudrait qu'on envoie un enfant dans le corridor. Hey, va chiller dans le corridor. C'est pas ça qu'on fait, là.
Non. Mais l'autre chose, c'est que est-ce que vous pensez que tous les enfants bénéficieraient de ça? Par exemple, les enfants sont tendus, vous leur faites faire des push-ups dépendant de l'âge, là. Vous leur faites faire des push-ups, 10 push-ups, là, avant de reprendre l'autre activité. Tous les enfants bénéficieraient de ça. Vous mettez un élastique entre les pattes, là, pour qu'ils puissent pousser dessus, là. Ça coûte pas cher, cette affaire-là, plutôt que de s'envoyer en arrière, comme les enfants ont tendance à faire, surtout les TDAH. Mais tous les enfants devraient avoir un élastique. C'est pour ça que quand on fait des plans d'intervention, on les cible. Mais au fond, il y a plein d'enfants qui ont besoin de bouger comme les TDAH dans le couloir. Puis s'ils ont mal vécu, qu'ils ont, par exemple, pas de toit sur la tête en juin prochain, bien, je suis sûre que l'élastique en dessous va leur servir aussi. Hein? Qu'en pensez-vous? Alors, oui, M. Simon, vous avez tout à fait raison. On a la pilule facile, mais effectivement, il y a plein d'autres stratégies qu'on doit additionner ou sinon avoir avant de donner la pilule. M. Steve, bonsoir.
Bonsoir, ça va bien?
Oui. Alors, qu'en pensez-vous?
Ben moi, je trouve que c'est assez facile avoir des pilules.
Oui.
Moi, je reste dans une réserve indienne, au Danak. Puis, c'est ça, un centre de santé. Puis, moi, j'avais des problèmes de consommation.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça, là, j'ai été demandé quelque chose pour avoir un substitut parce que la personne qui me fournissait, comme, est décédée. Fait que là, j'avais besoin de quelque chose.
Le pusher est décédé, ça fait que vous n'aviez plus de matériel, là. Vous n'aviez plus de substance. OK.
Fait que j'ai été voir le médecin, il m'avait prescrit, là je faisais comme des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, c'est grave, puis il m'a prescrit la quetiapine puis la sérotonine.
Ouais, ok.
Puis ça l'a compensé.
Ok, la quetiapine, ça vous a aidé?
Oui.
Ok, est-ce que vous en prenez encore? Est-ce que vous en prenez encore?
Oui, ça fait environ... déjà un an et demi, là.
Puis est-ce que vous avez de l'aide complémentaire pour vous aider dans votre sevrage?
Non, je consomme encore.
Ah, OK. Puis vous consommez à la même quantité qu'avant ou c'est progressif, évidemment?
C'est progressif, oui. On pourrait dire que c'est comme stable, là, mais tu sais, c'est la quetiapine permet d'éviter de...
Est-ce que vous avez un suivi?
J'avais un suivi, oui, avec une infirmière, mais j'ai comme laissé tomber. Puis là, je recommence cette semaine parce que j'ai contacté l'hépatite C, il y a peut-être 20 ans à Vancouver.
Mm-hmm.
Puis là, ben, j'ai décidé d'aller faire le traitement mercredi prochain.
Bon, fait que vous allez en désintox.
Oui, ben non, elle m'a dit que... Tu sais, vu que j'étais consommateur, peut-être que je pouvais faire mon traitement si ça ne dérangeait pas si je consommais.
OK. Ça dépend de la substance, là. Mais disons que, en tout cas, vous vous enlignez vers un changement de vie. C'est ça que je comprends?
Oui, parce que j'ai contacté un hernie.
Oui.
Puis là, ça fait vraiment mal parce que sinon, sûrement, je n'aurais pas été. Mais là, l'infirmière du centre de santé m'a appelé.
Parfait.
Yeah, ça fait un an que l'hôpital de Trois-Rivières n'a pas eu des nouvelles pour démarrer
la chirurgie. Ça fait que vous avez un problème complexe, mais en tout cas, si vous désirez changer, c'est intéressant parce que de vous faire accompagner, et je pense que vous avez les possibilités de vous faire accompagner, donc j'en profiterai pendant que le train passe. Merci beaucoup, Steve, à la prochaine. Et M. Donald, bonsoir, Donald.
Bonsoir, madame. Très bon sujet. Moi, ça fait le premier pour répondre à la question. Oui, on prend trop de pilules. On en prend plus qu'on peut manger de repas d'une semaine.
Oui, OK.
Moi, ça fait 40 ans que je prends 5 sortes de pilules. Ouais. J'en ai une, entre autres, que je peux pas me passer. C'est des silicoxibes, des 100 mg. C'est pour les anti-inflammatoires.
Ouais.
Là. Ouais. Ouais. Celui-là, mais je veux dire, là-dessus, je veux dire que depuis 2019, moi-même, je sais pas si je peux vous dire ça, j'ai tout coupé moi-même et dit non, je prends trop de pilules, moi, là. J'ai découvert qu'une pilule durait 48 heures dans le corps.
Ça dépend des pilules.
Je m'ai essayé ça. Tranquillement, j'ai coupé tout. Ouais. Ma recette en deux. Une journée, je les prends. Le lendemain, je les prends pas. Puis, madame, je file très bien. Fait, c'est ça. Votre question, là, elle m'appelait ce soir, elle me dit, tu sais, votre sujet m'appelait en voulant dire, oui, c'est vrai. On prend trop de pilules. J'ai dit, madame, ça fait 3 ans que je marche, j'ai pas de trop pantoute, puis j'ai des pilules même pour éclaircir le sang. J'ai des pilules pour la pression, puis le cholestérol. Ça, c'est une autre affaire. Le cholestérol,
ils vous donnent. Tout arrêter ça, les pilules qui est anticoagulant, puis tout ça, là?
Ben, à tous les deux jours.
Bien, ça dépend de votre médicament. Il y en a qui ne durent pas 2 jours. Puis les pilules pour la pression, souvent, ils durent 24 heures au maximum. Il n'y en a pas qui durent plus que 48 heures.
Bien, puis, comme moi, c'est, mettons, là, vous dites, ça fait depuis 2019, j'ai essayé ça, puis je vais très bien.
Je peux pas vous encourager à faire ça parce qu'on appelle l'hypertension le tueur silencieux.
Ben, c'est comme je vous dis, pour ça, je ne savais pas
donc,
que j'avais le droit de...
ça donne des AVC, cette affaire-là.
Ouais.
Là, vous avez coupé vos anticoagulants, qui théoriquement, c'est parce que vous aviez probablement un problème de rythme. Ça fait que ça donne des beaux AVC. Fait que moi, entre rester paralysé au centre d'accueil à moitié du corps ou bien donc prendre ma médication, peut-être que je les continuerai. En tout cas, savez-vous ce que vous pouvez faire? Votre meilleure bête, là, votre meilleure possibilité, c'est de demander à votre médecin.
Okay.
Là, docteur, je suis tanné. Voulez-vous faire du ménage dans mes pilules puis diminuer les doses, me donner les doses minimum efficaces? Alors, ben merci beaucoup de votre suggestion, mais que je ne vais pas recommander. Et on va aller se poser la question. Merci beaucoup, bonsoir. Et on va se poser la question, est-ce qu'on prend trop de pilules? Est-ce qu'on a la pilule trop facile? Et on va revenir après la pause.